Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 4 Bahman 1399 du calendrier iranien, 23 janvier 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information et un commentaire politique. Les États-Unis de Biden devrait saisir l'occasion de lever les interdictions et de rejoindre l'accord nucléaire avec l'Iran, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran n'est pas intéressé par un contact direct avec l'administration Biden, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. La vaccination en Iran débute en février 2021, a déclaré le président iranien. Et l'armée irakienne affirme que 3 roquettes ont été tirées sur l'aéroport de Bagdad. C'était les principaux titres de l'actualité, voici le journal. L'Iran affirme ne pas être intéressé par un contact direct avec la nouvelle administration américaine. Le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que pour le moment, Téhéran n'est pas intéressé par un contact direct avec la nouvelle administration américaine et que les négociations doivent être menées dans le cadre du plan global d'action conjoint. Nous n'avons pas de position spécifique sur ce transfert de pouvoir aux États-Unis. Nous attendons juste de voir comment le nouveau président des États-Unis veut corriger les mauvaises actions de Trump, a déclaré Abbas Araghchi dans une interview accordée au quotidien italien La Repubblica. Les États-Unis doivent lever toutes les sanctions pour revenir à l'accord nucléaire, a-t-il ajouté. La vaccination débutera dans le pays en février. L'utilisation de vaccins étrangers est une nécessité jusqu'à l'arrivée du vaccin national, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. De bonnes avancées sont déjà réalisées dans le domaine de la production du vaccin iranien et l'importation du vaccin étranger. Dans le domaine des vaccins iraniens, on peut dire que nous aurons 3 vaccins dans quelques mois, et le premier lot de ces vaccins iraniens nous parviendra d'ici la fin du printemps, a ajouté le président Rouhani lors d'une réunion du Comité national de la lutte contre le coronavirus. L'armée irakienne affirme que l'aéroport international de Bagdad a été attaqué à la roquette sans faire de victimes. L'attaque a eu lieu vendredi soir. Selon la source, 3 roquettes Katyusha ont été tirées vers l'aéroport, dont une a frappé un immeuble résidentiel dans le quartier du Jihad, causant des dégâts matériels. Victory Base Complex, un groupe d'installations militaires américaines entourant l'aéroport international de Bagdad en Irak, est également situé dans la même zone. Jusqu'à présent, aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque. Des zones autour de l'aéroport de Bagdad avaient déjà fait l'objet d'attaques similaires dans le passé. L'administration Biden réexamine le placement d'Ansar Allah dans la liste des organisations terroristes. Le département d'État américain a déclaré qu'il avait commencé à revoir la désignation du mouvement populaire d'Ansar Allah du Yémen comme organisation terroriste. Le ministère a déclaré qu'il travaillait dans les plus brefs délais pour examiner la question et prendre une décision finale. C'était l'une des dernières décisions de l'administration de Donald Trump qui a visé le Yémen, terrassé par 5 ans de guerre et de bombardements qui a débuté avec l'intervention militaire de l'Arabie saoudite à la tête d'une coalition d'agression. Cette décision a déclenché des vagues de protestations, non seulement de la part des Nations Unies, de l'Union européenne, des ONG, mais aussi du peuple yéménite. Moscou a mis en garde l'ambassade américaine contre toute couverture de rassemblement non autorisé en Russie, affirmant que cette décision sera considérée comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du pays. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a critiqué une alerte de manifestation publique sur le site web de l'ambassade américaine. L'alerte appelle les ressortissants américains à éviter les manifestations non autorisées de soutien à la figure de l'opposition, Alexis Navalny, et cela en raison de la présence probable de la police. L'alerte énumère ensuite en détail le lieu et le calendrier des manifestations prévues dans différentes villes. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que les informations publiées par l'ambassade des États-Unis vont au-delà des préoccupations des ressortissants américains en Russie. Moscou a déjà qualifié d'illégales les manifestations prévues contre la détention de Navalny. Le gouvernement de Joe Biden a signifié vendredi 22 janvier au gouvernement afghan sa volonté de revoir l'accord signé en février par les États-Unis et les talibans, notamment pour évaluer le respect de l'engagement des talibans. Le conseiller à la sécurité nationale du nouveau président américain Joe Biden, Jake Sullivan, a informé son homologue afghan sur un réexamen de l'accord de paix entre les États-Unis et les talibans par la nouvelle administration lors d'un appel téléphonique. Selon Sullivan, les États-Unis veulent vérifier si les talibans respectent leurs engagements, surtout celui de réduire les violences. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a réaffirmé que les États-Unis soutiendraient le processus de paix en Afghanistan pour un cessez-le-feu durable et permanent. En vertu de l'accord entre les États-Unis et les talibans, toutes les forces américaines doivent quitter l'Afghanistan d'ici le mois de mai 2021. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a exhorté le président américain Joe Biden à mettre fin à la politique de pression infructueuse de son prédécesseur contre l'Iran et à entamer le processus de ralliement à l'accord nucléaire de 2015 en levant toutes les sanctions unilatérales sans condition, avertissant que la fenêtre d'opportunité ne sera pas ouverte pour la nouvelle équipe de la Maison-Blanche pour toujours. Dans un article d'opinion publié vendredi dans le magazine américain Foreign Affairs, Zarif a déclaré que l'ancien président des États-Unis n'avait pas réussi à faire céder l'Iran à ses demandes par le biais de sa campagne de pression maximale qui a suivi le retrait de Washington en mai 2018 de l'accord nucléaire. L'accord a été signé en 2015 entre Téhéran et les six grands États du monde, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine et la Russie, et a ensuite été approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Après avoir abandonné l'accord, Washington a réimposé les sanctions anti-iraniennes levées par l'accord et a lancé un effort pour détruire complètement l'accord nucléaire en essayant de dissuader les signataires restants de rester dans l'accord et en menaçant de sanctions contre toute partie qui refuserait de réduire les affaires avec l'Iran. La pression de Washington a réussi à empêcher les co-signataires européens de s'acquitter de leurs obligations contractuelles, une situation qui a incité Téhéran à riposter et à suspendre une partie de ses propres engagements au titre de l'article 36 de l'accord nucléaire de 2015. Trump a écrit Zarif a tenté de torpiller une réalisation diplomatique multilatérale majeure et a ensuite lancé une campagne de guerre économique brutale visant le peuple iranien, punissant en fait l'Iran pour son adhésion à un accord approuvé par l'Organisation des Nations Unies. M. Zarif a ajouté que la politique de pression de Trump a créé certaines difficultés pour la nation iranienne, mais ces difficultés ne nous ont pas forcés à nous rendre, ni n'ont effondré notre économie ou changé notre calcul stratégique. En fait, la campagne hostile a non seulement échoué, mais a produit l'opposé du résultat escompté puisqu'elle a encouragé la République islamique d'Iran à renforcer largement ses capacités dans l'industrie nucléaire. La nouvelle administration de Washington a un choix fondamental à faire. Il peut embrasser les politiques ratées de l'administration Trump et continuer sur la voie du dédain pour la coopération internationale et le droit international, a déclaré M. Zarif. Ou la nouvelle administration peut se débarrasser des hypothèses ratées du passé et chercher à promouvoir la paix et la courtoisie dans la région. Le haut diplomate iranien a conseillé à Joe Biden de prendre la deuxième option et de choisir une meilleure voie en mettant fin à la politique ratée de pression maximale de Trump et en revenant à l'accord que son prédécesseur avait abandonné. Cependant, Zarif a déclaré que Washington peut revenir à l'accord s'il montre qu'il a la véritable volonté politique d'être un véritable partenaire dans les efforts collectifs. Les accords internationaux ne sont pas des portes tournantes, après tout, et ce n'est pas un droit automatique de revenir à un accord négocié et de jouir de ses privilèges après que l'on soit simplement parti sur un coup de tête, a-t-il écrit. Zarif a également mis en garde les États-Unis et leurs alliés européens dans l'accord contre toute tentative de modifier les conditions soigneusement négociées et d'inclure des sujets non pertinents, notamment le programme de défense nationale de l'Iran et les activités régionales de la République islamique d'Iran dans l'accord nucléaire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de débat. La nouvelle administration américaine vient de se mettre en place à Washington. Dans son discours d'investiture, le nouveau président américain Joe Biden a promis d'interagir avec le monde. Quelle sera la politique de la nouvelle administration américaine envers l'Iran? Est-ce que Washington va poursuivre la même politique de suivie par l'administration Trump envers l'Iran ou bien en fait elle va, si vous voulez, suivre une autre politique ou bien c'est tout simplement c'est la même politique avec une tactique différente. À Téhéran, le président iranien a souligné que ceux qui voulaient en fait terrasser le peuple iranien, ils ont été renversés, humiliés. Dans le même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a souligné que Trump et de Pompeo et compagnie ont été jetés dans les poubelles de l'histoire. Alors, quelle sera en fait la politique de la nouvelle administration américaine envers l'Iran, très particulièrement envers l'accord nucléaire, parce que en fait, on a entendu de ces derniers jours les responsables de la nouvelle administration américaine comme quoi l'Iran devra respecter ses obligations dans le cadre de l'accord nucléaire avant toute chose, alors que ce sont les Américains qui se sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire de 2015. C'était en 2018 une décision qui a été prise par Donald Trump, mais c'est en fait, ça revient aux États-Unis de reprendre ses engagements envers l'Iran, d'autant plus qu'il y a eu quand même un manque de volonté d'indépendance d'action de la part des Européens également vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne l'accord nucléaire de 2015. On va parler de cela avec, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, le débat, avec deux spécialistes. J'ai avec moi pour cette émission, depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develay. Maître Develay, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Maître Develay. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un géopoliticien et spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Il s'agit de Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Un grand salut à Maître Develay, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
Luc Michel, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle sera, d'après vous, la politique de la nouvelle administration américaine, du nouveau président américain Joe Biden envers l'Iran? On va commencer avec l'Iran, ensuite on va revenir sur la politique moyen-orientale des États-Unis sous l'administration Biden.
Mais pas plus que vis-à-vis du Proche-Orient ou de l'Iran, que de la Russie, de la Chine, etc., il ne faut pas attendre un grand recette de l'arrivée de Biden au pouvoir. Beaucoup de gens s'imaginent à tort qu'on va voir revenir l'Obama de 2015, mais le contexte géopolitique a changé. La plupart des experts, et je partage leur expertise, c'est que nous allons à la fois voir revenir ce qu'il y avait de pire dans les années de Bush 2, c'est-à-dire la tentation de l'interventionnisme militaire combiné à l'interventionnisme politique et humanitaire des années Obama. Il n'y aura pas de grande différence. On sait déjà, il y a des déclarations dans ce sens, que la volonté soi-disant de retour à Genève des Américains, elle s'accompagnerait pour l'Iran d'une obligation de négocier à nouveau sur son volontarisme. volet balistique qui fait partie de la défense nationale, de la doctrine de défense nationale de l'Iran, c'est exactement la raison pour laquelle Trump a quitté Genève et pour laquelle les Européens, les Français ou les Allemands n'ont pas du tout soutenu les Iraniens malgré leurs belles déclarations. Lorsqu'on voit la continuation vis-à-vis de la politique israélienne, c'est la même chose. Ce sont le soutien continu au Likoud et les acquis considérés comme tels par les Israéliens qui sont venus des années Trump, notamment Jérusalem, capitale d'Israël, etc. Eh bien, donc le New Deal, c'est quelque chose qui ne sera pas remis en cause. On voit d'ailleurs l'ambassadeur vient d'être nommé d'Israël aux Nations Unies, c'était l'ambassadeur de Netanyahou et du Likoud, il vient à la fois d'être désigné comme ambassadeur à Washington, ça explique exactement le contexte. Il faut donc rien attendre de ces gens, d'autant plus que derrière Biden, contrairement à la propagande occidentale, on n'a pas droit à un président soi-disant de consensus ou autre. C'est un président qui ne représente qu'une moitié de l'Amérique qui est opposée à l'autre. Il y a un climat de guerre civile qui est dans les esprits. Mais surtout, c'est un homme de 80 ans, fatigué. La véritable patronne, ça va être Kamala Harris, la vice-présidente. Elle est issue des réseaux Soros. Et depuis plusieurs mois, elle se profile en représentant des milieux les plus radicaux de l'américanisme. Donc il ne faut pas attendre de ces gens ni des concessions, ni de la pacification, etc. Pour le moment, on a les grands orgues de la propagande américaine, président de consensus, homme de paix, etc. C'est exactement le contraire qui se dessine. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs sur les autres dossiers ce qui se passe.
Maître Develet, est-ce que vous aussi, tout comme Luc Michel, Luc Michel est très très... est en fait pessimiste par rapport à la politique suivie par cette nouvelle administration américaine. Est-ce que vous aussi vous estimez qu'il faut rien attendre de ces, si vous voulez, de ces gens qui sont arrivés au pouvoir aux États-Unis dans le cadre, bien sûr, de cette nouvelle administration Biden?
Oui, malheureusement, non, il ne faut pas attendre grand-chose. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil aux nominations de l'administration Biden, qui est en fait un ressuscité plus ou moins de l'administration Obama, avec quelques nouvelles têtes, mais dont on sait qu'elles partagent tous le même consensus sur, en tout cas, la région du Proche et Moyen-Orient, avec le retour de Samantha Powers, avec le retour de Victoria Nuland, avec la nomination de Anthony Blinken, dont on a pu, au travers de ces auditions de confirmation au Sénat, apprendre qu'il était, si je puis dire, il conditionnait tout retour à un accord avec l'Iran, à la sécurité d'Israël, je cite, laquelle est sacro-sainte. Donc, je crois que, entre guillemets, excuse-moi l'expression, mais la messe est dite. Et dans ce contexte-là, il faut intégrer effectivement le glissement de sémantique qui porterait, s'il y a retour des États-Unis dans l'accord, sur ce qu'eux appellent un accord renforcé, qui encore une fois est dans la continuation de ce qui a été évoqué par Luc Michel, à savoir l'ouverture d'un chapitre sur le balistique iranien. Et ça, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a été extrêmement clair. Ça fait partie effectivement de la doctrine de défense nationale et l'Iran a le droit non seulement de se défendre, mais de préserver, de maintenir sa souveraineté et en aucun cas ne sera disposé à réinventer la substance d'un accord sur des sujets qui sont complètement périphériques et sans connexion aucune avec ce qui avait été signé en 2015. Donc la position de la République islamique d'Iran au jour d'aujourd'hui, elle est très claire. Il n'est pas question de renégocier quoi que ce soit. Il est question pour les États-Unis de remplir leurs obligations. Donc, ça veut dire lever les sanctions et, à partir de là, appliquer ce qui a été entériné, ratifié et déposé à l'ONU, cristallisé sous le libellé de la résolution 2231, avant que quoi que ce soit d'autre puisse être évoqué. Les Américains se sont mis en porte-à-faux, c'est donc à eux de revenir au statu quo en paix.
Luc Michel, vous venez d'entendre Maître de Volée, il n'est pas question pour Téhéran de renégocier quoi que ce soit. Et le président Rouhani vient de le dire, que voilà, désormais la balle se trouve dans le camp des États-Unis, décret contre décret, décision contre décision, engagement contre engagement. Luc Michel, l'Iran qui a en fait résisté aux États-Unis de Donald de Trump ne va pas se soumettre en fait au dictat de l'administration Biden. Alors, les Américains devront lever les sanctions, devront revenir à leurs engagements pour permettre une percée et pour permettre en fait leur réintégration dans l'accord nucléaire de 2015. N'est-ce pas, Luc Michel?
Il faut constater quelque chose, c'est qu'on n'est plus dans le contexte géopolitique de 2015, et il y a un contexte général qui s'est inscrit, dans lequel l'Iran prend place, qui s'est inscrit à la fois face aux États-Unis et à Israël. L'Iran de 2015, il s'était rapproché de Moscou et de Pékin. En 2021, l'Iran, c'est une des trois grandes capitales de l'Eurasie en marche. Il y a un axe militaire Russie, axe de la résistance, et il y a un axe géopolitique qui est constitué par Téhéran, Pékin et Moscou. C'est donc très différent. Il y a par ailleurs une donnée géostratégique fondamentale. C'est la parité stratégique. Aujourd'hui, la parité stratégique entre les Israéliens et les puissances de l'axe de la résistance, elle a été rétablie par l'alliance russe. C'est fini les Américains qui dominaient le ciel du Proche-Orient. Il y a d'ailleurs des voix qui se sont élevées hier en Israël même. Il y a des officiers de l'aviation de Tsahal qui ont indiqué clairement qu'aujourd'hui, les missiles précisément, notamment les missiles russes de type S-400, S-400, les missiles iraniens, les missiles balistiques, etc., mais aussi les missiles du Hezbollah, tout cela équilibrait la domination stratégique de l'aviation israélienne. Il est donc essentiel pour les Israéliens d'essayer de revenir à la domination stratégique, et pour ça, il faudrait que les Iraniens abandonnent leur programme balistique, ce qui n'arrivera pas. C'est clairement précisé. Les Iraniens savent ce qui s'est passé il y a 10 ans avec Kadhafi. Kadhafi avait désarmé pour finir par être détruit. C'est une erreur qu'aucune puissance ne constituera plus dorénavant de par le monde. Cela fait partie de la réflexion stratégique de la Corée du Nord. Ça fait partie de la réflexion stratégique de l'Iran. Et à partir de ce moment-là, les Américains vont tenter, par une renégociation, et en même temps un mélange de mélanges, on voit notamment que rien n'est fait actuellement. Au contraire, on est en train d'alourdir le volet des sanctions économiques contre l'Iran. Rien n'est fait pour diminuer cela. Ajoutons à cela qu'il y a une question de prestige, c'est-à-dire que partant, les Chinois ont laissé aux États-Unis un avertissement. Ils viennent de sanctionner 20 dirigeants de l'administration Trump, dont Mike Pompeo, pour leur politique d'ingérence dans les affaires chinoises. C'est un exemple de ce qui va être fait dans d'autres pays. Dès lors, les Américains ne peuvent pas, pour des questions de prestige, renoncer à cela. Ils vont donc reprendre le bras de fer que Trump menait contre l'Iran. C'est pas d'ailleurs le seul dossier de géopolitique internationale où la continuation va être très nette, non pas avec les années Obama, mais avec les années Trump.
Arnaud de Volée, est-ce que vous êtes d'accord avec Luc Michel qui dit que voilà, l'Iran de 2021 est tout à fait différent de l'Iran de 2015. En 2015, selon bien sûr Luc Michel, l'Iran s'était de tenter de se rapprocher de Moscou et de Pékin, mais l'Iran de 2021 lui-même, c'est un maillon fort de l'axe de la résistance, et c'est également un maillon fondamental de l'axe de constituer de Pékin, de Moscou et de Téhéran.
Oui, effectivement, rappelons-le pour nos auditeurs, l'accord dont il est sujet pour aujourd'hui avait été signé en juillet 2015, soit 2 mois avant l'intervention russe. dans le théâtre syrien. Et on a vu effectivement depuis le 30 septembre 2015 que la situation géostratégique régionale a complètement basculé vers un rééquilibrage géostratégique. Michel l'a bien souligné, avec d'un côté effectivement une prétendue domination aérienne israélienne sur le papier, contrebalancé par un anneau balistique qui rend toute escalade vaine en ce qui concerne les intérêts israéliens. Donc, on est dans une situation de blocage quelque part. La question qui se pose, c'est est-ce que les Américains ont, si je puis dire, la hauteur de vue nécessaire pour essayer, puisqu'il est question de prestige, de mettre sur la table des propositions qui pourrait porter sur un système de défense et de sécurité collective pour la région, auquel les puissances régionales seraient conviées, et plutôt que de mettre l'ONUS sur le programme balistique, la capacité balistique iranienne, il devrait plutôt être mentionné, effectivement, le programme nucléaire israélien. Parce que c'est quand même ça, au fond, le problème. C'est que cette parité stratégique, les Israéliens ne veulent pas la perdre eu égard à leur monopole de l'arme atomique dans la région. Donc, le simple fait qu'ils se sentent si nerveux par rapport à la capacité balistique de l'Iran laisse entendre que malgré cela, ils se sentent encore capables de se dire qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc, si les Américains sont sérieux, déjà qu'ils reconnaissent qu'ils ont erré en quittant unilatéralement le traité, ce qui, à mon avis, n'est pas près d'arriver. Mais après, ça laisse, si vous voulez, un vide. On ne peut pas rester dans une situation de blocage comme cela. Donc, c'est à mon avis aux puissances régionales directement concernées et aux puissances internationales de se mettre autour d'une table et peut-être de discuter d'une nouvelle architecture. Ça, l'administration Biden nous dira si, dans les 4 ans à venir, ce type de vision est sur la table.
Mmh. Luc Michel, vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif c'est également de priver l'Iran de ses capacités balistiques, de priver l'Iran également de son rôle et de son influence dans la région, et de certains régimes qui sont considérés d'ailleurs comme les alliés les plus proches de Washington ont confié tout simplement leur sécurité aux États-Unis. Mais il n'est pas question, Luc Michel, pour l'Iran, de négocier ses capacités balistiques, ses capacités défensives, également son influence régionale, pour finir, comme par exemple ces régimes dont l'Arabie Saoudite, par confier la sécurité, sa propre sécurité à un pays comme les États-Unis.
Écoutez, il faut comprendre, pour comprendre, il faut faire une réflexion géopolitique. La géopolitique étant littéralement la science qui domine le 21e siècle. Aujourd'hui, l'Iran n'est pas seulement une puissance régionale, elle a un rôle géopolitique bicontinental. Si vous observez une carte, et il faut toujours raisonner la géopolitique sur les cartes, Napoléon, qui annonce déjà la géopolitique, disait que la politique d'un État était dans sa géographie. C'est ce qui apparaît. Quelle est la politique de Moscou et de Pékin? Elle est à la fois dirigée vers l'Europe occidentale. Lavrov et Poutine, ils parlent d'une Eurasie, de la grande Europe de Vladivostok jusque l'Atlantique. Les Chinois voient les routes de la soie jusque l'Union européenne, mais ils voient aussi bien les Russes et les Chinois, la liaison avec l'Afrique. Que veut Moscou? C'est reprendre pied, comme la faisait l'URSS de Brejnev, comme une grande puissance en Afrique. Elle est en route au début de ce processus, au Soudan, en Centrafrique, au Mali. Et les Chinois entendent ouvrir des routes africaines de la soie vers Dar el Salaam, mais aussi maintenant vers Malabo. Si vous regardez une carte, vous voyez que entre l'Eurasie et l'Afrique, il y a une interface géographique naturelle, c'est l'Iran. Qui contrôle l'Iran, qui est allié de l'Iran, a une projection à la fois vers l'Europe occidentale, vers l'Asie centrale et l'Asie et vers l'Afrique. Ce rôle géopolitique fait que ni Moscou ni Pékin ne laisseront aujourd'hui désarmer l'Iran. L'Iran de 2015, c'était un facteur régional et on était encore dans un contexte. Les Chinois n'intervenaient pas et les Russes étaient dans une espèce de neutralité bienveillante. Depuis, il y a eu la guerre de Syrie. La guerre de Syrie, elle a constitué un axe militaire entre la Russie et la résistance. Combattre ensemble le même ennemi, ben, ça crée évidemment des liens de nature géopolitique et politique. Et aujourd'hui, Moscou n'est plus un acteur assez bienveillant d'ailleurs en Israël. C'est l'arbitre de la vie même des géopoliticiens israéliens. C'est l'arbitre du Proche-Orient. Et cet arbitrage ne se fait pas en faveur des Israéliens. À partir de ce moment-là, tout le challenge est que la géopolitique américaine et israélienne, c'est une géopolitique qui est encore empreinte des 5 premières années de cette deuxième décennie du XXe siècle, et que la géopolitique de Moscou, de Pékin et de Téhéran, elle est déjà ancrée dans la troisième décennie. Cela va être intéressant, d'autant plus que les gens qui sont autour de Biden, ce sont des gens qui, tous comme les gens de Trump, il ne faut pas dire que Trump était meilleur que Biden ou que Biden est meilleur que Trump. C'est l'américanisme, ce sont des fractions, ce sont des prédateurs qui se disputent un territoire et des proies. Les gens qui sont autour de Biden, ce sont des partisans de la domination mondiale américaine, des Américains, la superpuissance qui doit diriger le monde. Si vous avez écouté le discours d'inauguration de Biden, c'était un discours empreint du messianisme américain, de la fameuse Manifest Destiny, qui aurait donné la destinée ayant donné le contrôle du monde aux États-Unis. C'est quelque chose qui est dépassé, qui ne marche plus, pas au moment où sont émergées justement les puissances du bloc eurasien.
Et Arnaud de Vollet, nous avons 2 minutes devant nous. Selon Luc Michel, l'Iran est désormais une puissance incontournable.
Oui, de par sa géographie, de par sa capacité à démontrer ces dernières années face à une administration Trump qui vraiment avait mis en avant cette doctrine de pression maximale, qu'elle ne s'en laissait pas compter, qu'elle rendait coup pour coup, et qu'elle était en mesure, en termes de capacité balistique, de tenir la dragée haute aux Américains et si je puis dire, les tenter de faire quelque chose qui ne serait absolument pas dans leur intérêt, ni dans les intérêts de ses alliés dans la région. Donc la perception même de l'Iran a complètement changé. J'ajouterais que maintenant l'Iran exporte, si je puis dire, du pétrole jusqu'en Amérique du Sud, donc dans le giron américain, dans l'espace régional américain. Donc il y a une projection non seulement de l'esprit de la résistance au sens original du terme dans la région, eu égard à ce que l'Iran est devenu comme pays pivot de cette alliance eurasiatique, mais aussi maintenant avec l'exportation, si je puis dire, d'un esprit de résistance bien au-delà des frontières régionales, jusque dans l'arrière-cour américaine. Et ça, le public l'a bien ressenti, l'a bien perçu. J'ajouterais que le martyr du général Soleimani a aussi révélé que des figures de la résistance comme le général Soleimani étaient eux-mêmes bien au-delà d'un contexte purement régional. Donc tous ces développements, ces expressions du soft power iranien quelque part.
Merci.
D'asseoir l'émergence de l'Iran comme puissance incontournable, effectivement, au-delà de la position géostratégique et de carrefour, si je puis dire, entre l'Europe et l'Asie.
Merci infiniment, Arnaud de Vollet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Les intimidateurs qui cherchaient à terrasser l'Iran ont fini par être renversés, humiliés, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Ceux qui tramaient des complots et conspiraient contre notre nation ont été démasqués devant le monde entier, devant les nations, devant leur propre nation, dans les derniers jours de leur maléfique vie, et tout le monde a saisi à quel point ils étaient antidémocratiques et anti-parlement, a souligné le président Rouhani. Ils étaient comme ça depuis le début, mais c'était à la fin que le rideau tombe pour que le monde saisisse l'ampleur des crimes perpétrés par ces terroristes contre le peuple américain et le peuple du monde, a souligné le président Rouhani. Dans le même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a salué mercredi le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, affirmant que lui et son administration avaient été jetés dans les poubelles de l'histoire. Trump et de compagnie ont été jetés dans les poubelles de l'histoire, a-t-il écrit sur Twitter après la prestation de serment de Joe Biden. Le chef de la diplomatie iranienne a également assuré que les Iraniens continueraient de se souvenir du général martyr Rassem Soleimani et des milliers de personnes assassinées et privées de leur nourriture ou de médicaments par l'administration Trump, dont les actions ont été qualifiées de terrorisme et de crimes contre l'humanité, a souligné le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. La classification américaine d'Ansarallah sur la liste terroriste intervient après que cette administration a épuisé toutes ses options contre notre peuple. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du mouvement de la résistance yéménite Ansarallah, cité par la télévision Al-Masira. Pour Mohammed Abdel Salam, l'agression contre le Yémen est américaine et le blocus est imposé par les États-Unis. L'Arabie saoudite ne sert que pour mettre en œuvre les revendications, US a-t-il précisé avant d'ajouter. L'agression politique, militaire et économique n'a pas abouti, d'où la dernière tentative américaine de classer Ansarallah sur la liste des mouvements terroristes, soulignant que l'arrivée des États-Unis à ce stade révèle l'échec de leurs mercenaires saoudo-émiratis dans l'accomplissement des dictats US. Abdel Salam a en outre rassuré le peuple yéménite. Il n'y aura pas de répercussions politiques, économiques et humaines pour le blacklistage US parce que nous avons franchi toutes ces étapes. Et de poursuivre, nous avons tenu bon face à l'agression, au meurtre et au blocus et nous n'avons pas changé de position. Et le classement américain ne nous contraindra pas à changer de position ou à faire de concessions, a-t-il martelé. La Syrie a condamné vivement les pratiques agressives des forces d'occupation américaines dans la région de Jazira, appelant au retrait immédiat et inconditionnel de ces forces des territoires syriens. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère des Syriens des Affaires étrangères a vivement condamné les pratiques agressives quasi quotidiennes des forces américaines dans les zones qu'elles occupent dans la région syrienne de Jazira. Tous ces actes agressifs se déroulent quotidiennement et avec une négligence complète des résolutions du Conseil de sécurité qui insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie, a assuré le ministère syrien des Affaires étrangères. Il s'en est pris vivement à l'administration Trump qui a fourni un soutien illimité aux terroristes extrémistes en Syrie et y semait le chaos et entravait tout règlement politique. Ce que font les forces d'occupation américaines est une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et une violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité ayant trait à la Syrie, a affirmé la lettre qui appelle à l'arrêt de toutes les pratiques américaines agressives. La Chine a annoncé des sanctions contre Pompeo et d'autres responsables de l'administration Trump. L'ex-secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le conseiller de Donald Trump pour le commerce Peter Navarro et 20 autres citoyens des États-Unis qui ont porté préjudice aux intérêts de la Chine sont visés par des sanctions adoptées par Pékin, a annoncé le mercredi 20 janvier le ministère chinois des Affaires étrangères. Ces dernières années, plusieurs hommes politiques américains ne montrant aucun respect pour les intérêts des peuples chinois américains ont mené une série de manœuvres insensées qui ont gravement interféré dans les affaires intérieures de la Chine, porté atteinte aux intérêts chinois, offensé le peuple chinois et gravement perturbé les relations sino-américaines. La Chine a décidé d'adopter des sanctions contre 28 des personnes responsables de ces actions des États-Unis, a indiqué dans son communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. Selon le ministère, parmi ces personnes ayant agi au nom de leurs intérêts politiques égoïstes, de leurs préjugés et de leur haine contre la Chine, figurent notamment Matao Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Pompeo, secrétaire d'État dans l'administration de Trump, ex-chef de la CIA, Peter Navarro, conseiller de Donald Trump pour le commerce, Robert O'Brien, conseiller à la sécurité nationale, Alex Azar, secrétaire à la de santé, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale. Les États-Unis chercheraient à obtenir une prolongation de 5 ans d'un traité de contrôle des armements entre Washington et Moscou qui arrive à expiration, selon des informations diffusées jeudi. Citant des responsables américains, plusieurs médias ont rapporté que l'administration Biden demanderait une prolongation de 5 années complètes du nouveau traité de réduction des armes stratégiques, nouveau START, qui expire le 5 février 2021. Le candidat de Joe Biden au poste de secrétaire d'État, Anthony Blinken, a déclaré mardi que Joe Biden prolongerait le traité. Je sais qu'il a l'intention de demander une prolongation et nous devons prendre une décision en tant que président quant à la durée que nous demanderons, a déclaré Blinken lors de son audition de confirmation à la Commission des relations étrangères du Sénat américain. Le nouveau START peut être prolongé de 5 ans au maximum avec le consentement des deux pays. Le traité qui stipule les limites du nombre d'ogives nucléaires et de vecteurs stratégiques déployés est le dernier pacte de contrôle des armes nucléaires encore en vigueur entre les deux superpuissances nucléaires. La commission constitutionnelle composée de la Chambre des représentants de Libye basée dans l'est du pays et le Haut Conseil d'État de Tripoli sont convenus d'organiser un référendum constitutionnel avant les prochaines élections, a déclaré mercredi la mission d'appui des Nations Unies en Libye. La commission constitutionnelle s'est réunie mardi et mercredi dans la ville égyptienne de Hurghada et a accepté de tenir un référendum constitutionnel avant les élections générales du 24 décembre à indiqué la mission des Nations Unies en Libye, Manuel, dans un communiqué publié plus tard dans la journée mercredi. L'organe des Nations Unies a affirmé que les membres des deux conseils sont convenus de reprendre leurs discussions et d'inviter la haute commission électorale nationale à participer à la discussion sur la mise en œuvre du référendum. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.